On va prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous accueillons la présence de ton esprit dans notre cœur et au milieu de nous. C'est un des sujets que le diable ne veut pas que cela soit abordé, parce que ça le met à nu, ça fait jaillir la lumière de la vérité sur ses cachettes. Et nous voudrions que par la présence de ton esprit, tu nous conduises, libérer nos cœurs, notre esprit dans la connaissance de la vérité qui est celle de la parole. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur nous tous ici, ainsi que l'Esprit du Seigneur qui va nous conduire dans la profondeur de cette réflexion. Nous te rendons grâce et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Bien. C'est un sujet très délicat, je l'avoue. Prétendre le traiter dans l'espace de trois quarts d'heure ou une heure, c'est assez présomptueux, mais au moins, ça jette une lumière sur ce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes censés savoir au sujet de certaines pratiques qui, soit par un angélisme béat, on l'accepte et on tombe dans une forme de syncrétisme spirituel qui consiste à prendre à la fois la vérité de la parole de Dieu et l'associer à d'autres pratiques qui sont relèvent du paganisme. Je n'ai pas besoin de vous décrire qui en est le maître, le diable. Ça nécessite aussi notre enseignement sur ce qu'on appelle en théologie l'angélogie, la science des esprits qui existe. Notre monde physique est dans un espace limité. Mais le monde de l'esprit est beaucoup plus vaste, et très vaste d'ailleurs. Et ils influencent notre monde physique. Et c'est dans ce sens-là que ce que je vais vous dire va prendre tout son espace. Mais avant cela, je vais faire quelques citations de ceux qui nous ont précédés ou qui ont vécu une expérience à partir de laquelle nous pouvons nous inspirer. Christian Bobin disait ceci. Le diable, sans aucun doute, aime ce qui est fluide, ce qui est rapide, ce qui est lisse. L'angélisme de la part des hommes est sa vraie nature. Ça s'est caché. Il faut travailler le cerveau pour y arriver, pour comprendre. Une écrivaine allemande disait ceci dans son livre de l'Allemagne. Le diable est froid, même comme un amoureux, mais il n'est pas laid, car il peut prendre des formes qui lui plaisent. Ah là, ça c'est Mère Teresa. Le diable est le père des mensonges. Il n'apparaîtra pas comme un lion, mais comme un ange de lumière. Et ça, il rejoint la Bible. Charles Baudelaire dit, la plus belle malice du diable, c'est de faire comprendre aux hommes qu'ils n'existent pas. Qu'ils n'existent pas. Et un texte qui m'a beaucoup plu, que j'aimerais partager avec vous. Il s'agit de Charles Renouvier, un philosophe français que j'aimais lire quand j'étais jeune. Il disait ceci, si je me trouvais en présence d'un homme qui n'eut que le temps de ne lire qu'un livre dans sa vie, c'est la Bible que je lui présenterai. Et donc on s'aperçoit que la parole de Dieu comporte tous les éléments qu'il faut pour la vie d'un être humain. Et ceci étant dit, je vais commencer par un texte dans la parole de Dieu et je finirai par ce texte. Vous ne l'avez pas, mais vous l'aurez vous avez dans votre Bible. Notez que c'est seulement les références. Dans Actes, chapitre 19, versets 19 à 20, je cite, lorsque l'évangile a été annoncé, parmi ceux qui pratiquaient la magie, beaucoup apportent leurs livres et les brûlent devant tout le monde. On calcule le prix de ces livres et on trouve que cela fait 50 000 pièces d'argent. Je n'ai pas eu le temps de calculer l'équivalent en euros. Ainsi, par la puissance du Seigneur, la parole de Dieu est de plus en plus connue et de plus en plus solide. Une autre précaution qui m'est nécessaire de prendre avant de pouvoir aborder, c'est dans le livre de Jean, Jean chapitre 11. Lorsque Jésus, au sujet de Lazare, était venu ressusciter Lazare, il a dit quelque chose à ses disciples au sujet de Lazare. Verset 43 de Jean, chapitre 11. Ayant dit cela, il écria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Parce que s'il n'avait pas appelé Lazare, c'est tous les morts de l'époque qui vont sortir. Donc pour manifester la manifestation de la puissance de Dieu, il a nommé la personne qui veut faire sortir, « Lazare sort !» Et le mort sortit. Lorsque le mort sort, il n'est plus un mort, il est vivant. Cependant, les pieds et les mains de cet homme étaient encore liés par le bandelette et son visage était enveloppé de linge. Et Jésus va dire aux disciples, déliez-le et laissez-le aller. Souvent, quand on croit en Dieu, en Christ, on devient une créature nouvelle. C'est indéniable. Cependant, nous sommes dans un corps. Nous avons chacun une histoire, bonne ou mauvaise, heureuse ou malheureuse. Nous avons à un instant de notre vie développé une personnalité qui est la synthèse des sommes d'expériences, des connaissances, des choses que nous avons vécues. Et souvent, la plupart des choses qui se font ou que, avec lesquelles nous avons construit notre personnalité, nous les apprenons en dehors de Christ, y compris même l'influence de ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, jusqu'à remonter à Adam et Ève. Vous comprenez? Ça conditionne notre vie, ça nous influence. Et lorsque nous venons à Christ, unis à Christ, souvenez-vous, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est dit que si une personne ou une personne est unie à Christ, il est devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. À partir de ce moment, nous ne vivons plus sous le régime de notre ancienne nature, qu'on appelle la loi du péché et de la mort, mais nous vivons dans un régime nouveau, qui est celui de l'esprit de vie et de la vérité en Christ. Cela suppose qu'il y a une rupture entre l'ancien et le nouveau. Si l'ancien se traîne dans le nouveau, il n'y a plus de nouveau. C'est l'ancien qui se prolonge. Et souvent, l'ancien se prolonge dans le nouveau mélangé qu'on vit avec, on pense que c'est une réalité, c'est une vérité. Et c'est là l'objet de ce que nous allons partager avec vous, vient pour trancher, pour que notre vie soit réellement nouvelle en Christ. Et il y a une conséquence, c'est que l'Esprit du Seigneur se manifeste avec puissance et de nouvelles personnes viennent à Jésus. C'est dire que parfois la prospérité spirituelle, parce que nous en avions parlé à un moment donné, suite après avoir développé il y a 2 ans ou 3 ans la guérison en Dieu, ou la guérison selon la Bible, nous avons développé un aspect dont je garde le texte, comment vivre une vie abondante en Christ. Et pour vivre une vie abondante en Christ, il faut que ce soit Christ qui vit la vie abondante en nous. Il ne doit pas y avoir une autre présence. Et dans le prolongement de ce que Cécile nous a entretenu ce matin et qui m'est torpillé depuis longtemps pour que nous puissions en parler, je veux vous parler de ce que nous savons entre la foi chrétienne et le spiritisme. Le spiritisme, l'image, vous ne le voyez pas très très bien. Je J'ai eu des problèmes avec ma télécommande, donc elle ne fonctionne pas très bien, donc je l'utilise manuellement. Donc, excusez-moi. Ce que croit la foi chrétienne et ce que croit le spiritisme. Alors, c'est le caractère est trop petit, mais je veux le lire, et puis, voilà. Non, si, le caractère est trop petit, parce que... Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. On va avoir une synthèse. Voilà. La foi chrétienne croit que la Bible est inspirée par Dieu. Le Spirit croit que la Bible est remplie d'erreurs et de contradictions et qu'elle n'a jamais été inspirée par Dieu. Je lis à droite, à gauche et à droite en même temps. Je reviens à gauche. La foi chrétienne croit que Jésus a enseigné la totalité de la révélation et qu'il ne reste plus rien à révéler. Que pense le spiritisme ? Le spirit proclame que le spiritisme est la troisième révélation destinée à rectifier et même à remplacer l'évangile de Christ. Je reviens sur la gauche. La foi croit dans le mystère de la très sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous savez, la dimension de Dieu se révèle selon l'histoire de l'humanité. Par le passé, Dieu s'est révélé par les hommes au travers des prophètes, mais dans les temps présents, il s'est révélé à nous par le Christ. Et une fois que Christ s'est levé à la droite de Dieu, qui est le maître de l'Église, c'est l'Esprit Saint, avec lequel beaucoup de personnes ont des difficultés d'adéquation. Et ça fait partie de la foi chrétienne véritable. Faute de le maîtriser, nous passons à côté de ce que l'Esprit de Dieu peut nous donner comme dispensateur de la grâce. Parce que Jésus n'est plus physique, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous recevons les bienfaits inscrits dans la parole de Dieu. Le Spirit, il nie ce mystère de la Trinité. À gauche, la foi chrétienne croit que Dieu est créateur de tout, un être unique, qu'affirme le Spirit que les hommes sont des particules de Dieu. Alors, en admettant que les hommes sont des particules de Dieu, on développe une théorie qu'on appelle le panthéisme, dans lequel on y croit, on croit à la nature. Tout est divin. Et dans le tout est divin, il y a un élément qui intervient, vous voyez bien, la théorie de la réincarnation, c'est que les hommes, dans les étapes successives de leur existence, passent d'un état à un autre, même après la mort. Et ça, ce n'est pas uniquement qu'occidental, hein. Chez nous, en Afrique, c'est pareil. Il y a certaines tribus qui ne mangent pas des éléphants. Il y en a d'autres qui ne mangent pas des buffles. Il y en a d'autres qui ne touchent pas des caïmans. Et il y en a encore d'autres, des serpents boas, qui font l'objet d'adoration. Parce qu'ils estiment que leur grand-parent mort va se réincarner dans ce genre d'événements. Et donc, le panthéisme vient là. Je reviens à gauche. La foi chrétienne croit en l'existence des anges et des démons. Chez les spirites, il n'y a pas d'ange. Mais des esprits humains évoluent. Ça, c'est une grosse séduction. Il y en a une quinzaine, hein, j'ai repéré que ça. Et donc, cela implique des conséquences. Cette conception aboutit à croire que l'espiritisme, dans lequel je mets tout, parce que l'espiritisme, c'est quoi, par définition ? C'est la science occulte qui a pour objet de provoquer la manifestation des esprits par l'intermédiaire des médiums. La Bible nous parle de Jésus en tant qu'intermédiaire, le spiritisme nous parle de quelqu'un en tant que médium. Et n'importe qui peut être médium. L'ensemble de pratiques destinées à mettre les êtres vivants en relation avec les morts. L'évocation des morts. Ah, permettez-moi d'aller beaucoup plus loin pour vous choquer, vous titiller un peu. Je vais mettre un peu de l'alcool, Cécile. Ceux qui sont devenus protestants, parce qu'ils avaient estimé que la vérité était dans le protestantisme, avant étaient de la religion catholique. quoique le mot catholique, c'est universel. Si on pousse la réflexion beaucoup plus loin, le protestant est par définition un catholique. Mais dans l'Église catholique romaine, il y a une pratique qui fait des trafics avec les esprits. Quelqu'un m'avait apostrophé lors d'une prédication, mais avec véhémence, lorsque je fais le lien entre les fêtes de Toussaint et les fêtes des morts. Là, juste derrière vous, j'avais prêché, je suis allé. S'il a fallu qu'il me rentre dedans, il me rentrerait dedans. Attention, les fêtes des morts, je reviendrai beaucoup plus tard. Donc, le spiritisme, dans le spiritisme, je mets ceux qui sont les adeptes des signes de zodiaque, là, horoscope, les tarots, les diseurs de bonne aventure, souvent les lectures de lignes de main, la lecture dans la mare de café, des boules. Et souvent, quand on est dans cette conception spirit, consciente ou inconsciente, on n'est pas libre. On développe une dynamique de la foi à l'envers qu'on appelle la superstition. Le chiffre 13, ça fait bondir. Passer par sous une échelle, waouh! Et si vous allez par mégarde, vous les femmes, de casser le miroir ou la glace avec laquelle vous vous mirez, 7 ans de malheur. Et vous voyez, ce genre de pratiques rentrent dans notre inconscient et ça nous emprisonne. Ça nous empêche de vivre une vie réelle. Et il faut qu'un jour ou l'autre, que tout cela soit tranché. Ça, c'est l'image du spiritisme. On aime tellement quelqu'un pendant son vivant et quand il n'est pas là, on est toujours accroché. Parfois, on est tellement, on chérit des objets que la personne a, mais on oublie ce qui est derrière. Écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas aimer la personne que vous avez aimée et qu'à un moment donné, il n'est plus. Parce que quand il est de l'autre côté, il n'est plus comme vous, hein. Vous n'êtes plus comme lui. Il ne développe plus les mêmes sentiments que vous avez. Et les gens se laissent tromper. Il y aura des textes bibliques vers la fin. Parlons-en de quelques pratiques. Le spiritisme, en latin, ça vient du spirit, c'est un essai de réponse à la question « Que deviennent les hommes après leur mort ?» N'est-ce pas ? Curiosité. On lit cela parfois dans les encyclopédies catholiques. Ils ont un grand pavé dans la mare qui s'appelle le CEC, le catéchèse de l'Église catholique, sur lequel ils sont en train de faire des recherches, mais j'ai trouvé des contradictions terribles avec la parole du Seigneur, je vous assure. Selon ceux qui y recourent, nous pourrions communiquer avec les esprits de défunts, moyennant certaines techniques et certains rituels. Il y en a d'autres qui se retrouvent là. Nous en avons déjà parlé de la conséquence qu'est la réincarnation et les sphères successives de l'évolution des esprits vers le karma et qui rejoint parfois les sciences orientales. Quant à la communication avec les morts, les chrétiens la situent au plan de la foi. Quand tu as la foi, tu peux rentrer en contact avec la personne que tu as tant aimée. Et nous avons dans les églises catholiques ce qu'on appelle la communion des saints, qui unit les hommes d'ici-bas à ceux de l'au-delà. Ça touche légèrement le principe biblique de la vérité, mais en même temps, dans cette manière de voir, il y a un danger. Il y a un danger. Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir. Et après quoi ? Donc on voit qu'il n'y a rien qui nous unit, nous les vivants, à ceux de l'autre côté là-bas. J'aurais peut-être des éléments à apporter, mais ça va nous déjouer de notre objectif. J'en arrive. La nécromancie et la divination. C'est quoi la nécromancie? La nécromancie, c'est un monde d'esprit, hein, c'est la relation avec les morts. Hein, communication avec les morts. Et ça, ça nous fascine, nous les humains. Tout ce que nous ne parvenons pas à maîtriser nous fascine. Et dans le monde actuel, les jeunes sont très fascinés par ce qu'on appelle la nécromancie. C'est toute pratique qui vise à nous faire entrer en contact avec les morts. Et entre vous et le mort en question, il doit y avoir un officier qui fait le sacrifice, qui fait le rituel. Et on s'aperçoit qu'en France, ce secteur, ça fait combien? 3 ou 4, 6 milliards du chiffre d'affaires. L'Église n'est même pas riche de ça. 6 milliards, parfois les gens vont pour consulter les diseurs de bonne aventure ou les nécromanciens. Tout ça pourquoi? Ça exprime un besoin. Un besoin humain de se rassurer. Mais aussi ça exprime une inquiétude. Quand quelqu'un va pour se rassurer, c'est que quelque part, il est inquiet. Y a-t-il une inquiétude dans la vie d'un être humain que la Bible n'a pas de réponse? La pratique de la nécromancie qui donne lieu à la divination, le spiritisme, on appelle ça, je crois que l'adepte qui a mis tout cela en forme, c'est un Suédois. Le canneling. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Je voudrais simplement vous faire toucher les conséquences de ce genre de choses. La pire expression de la divination, qui est la plus grave aux yeux de Dieu, est la nécromancie, c'est-à-dire le recours aux esprits des morts pour entrer en contact avec eux et au pire, dévoiler l'avenir ou un de ses aspects. Et vous savez que quand l'année vient de terminer comme ça, quand les gens se souhaitent bonne année, vous pensez quoi, bonne année? Est-ce qu'une année en elle-même, elle est puissante? Dites-moi, est-ce qu'une année peut se changer elle-même? Vous pensez que si l'année 2018 était mauvaise et en disant bonne année en 2019, tu iras bien? Non. Ça, c'est une autre manière de voir ça. C'est ce que vous allez faire de l'année qui va être une bonne ou une mauvaise année. Et vous ne pouvez rien faire. En changeant en bien ou en mauvais. Sinon en mauvais, bien sûr. Mais celui qui peut changer l'année, c'est la présence de celui qui a créé le temps. C'est-à-dire Dieu lui-même. Si Dieu n'est pas dans une année est neutre, voire même pire. C'est pourquoi en nouvelle année, je crois que nous les chrétiens, on le sait ce qu'il faut. Pour beaucoup d'avantages de Christ dans notre vie. Je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme, comme veut la parole de Dieu. 1 Jean 3 que nous connaissons tous. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Donc, les gens rentrent en contact avec le monde des morts pour estimer ce qui va arriver après. Une sorte de prophétie. Et c'est là le diable, il se frotte les mains en tant qu'ange de lumière qui se déguise et il embarque tout le monde dans le décor. Et notre monde en est plein, depuis la haute sphère de la politique jusqu'au dernier. Y compris même l'Église, qui est censée être la colonne de la vérité, n'est pas à l'abri. Et en toute franchise, je sais que l'Esprit de Dieu vous conduit dans certains détails de vos vies où ces genres de choses-là sont venues se loger. Et il faut le présenter au Seigneur. Et il faut couper les liens. Sinon, vous allez voir que vous allez évoluer dans la vie chrétienne. Vous sentez que vous prospérez. Et à un moment donné, boum, vous retombez encore à nouveau. Vous commencez à vous faire des efforts, à progresser, boum, vous revenez encore à nouveau. Alors, c'est comme si vous êtes au pied de la croix, vous prenez votre accordéon, vous faites le yo-yo, le pardon, la réconciliation, pardon, réconciliation, et votre vie n'évolue pas. Vous êtes lié par un lien, quelque part. Que vous le vouliez, vous ne vouliez pas. Il n'est pas question d'une grande possession démoniaque, qui vous font dire ou n'importe quoi, ou faire des manifestations spectaculaires, mais en coulisses, le diable tient votre vie et vous ne prospérez pas spirituellement. Je vais aller encore beaucoup plus loin pour secouer quelques-uns. Il y en a d'autres qui sont des adeptes de dormir. Quand ils regardent un film, pendant 2 heures, ils ne dorment pas. Quand ils écoutent certaines musiques, ils ne dorment pas. Mais quand il s'agit d'écouter le message de Dieu, au bout de 10 minutes, c'est lorsqu'on est exposé à la parole de Dieu qu'on connaît la délivrance. Et l'ennemi s'arrange à ce que nos sens soient complètement étouffés pour que nous ne soyons pas exposés à la parole de Dieu. Je vous dis, l'expérience est l'appui. Nos morts peuvent-ils parler? Non. Morts ne parlent pas. Sauf si le diable prend une autre image. Ce texte, on reviendra tout à l'heure. On va revenir sur le thème. Je vais toucher un point. L'horoscope. L'astrologie. Je ne parle pas de l'astronomie, là. Je parle de l'astrologie. L'astrologie est l'ancienne croyance selon laquelle les étoiles et les planètes influencent nos vies et nos destins. N'est-ce pas? On utilise parfois dans les sciences de recrutement. Quand on va recruter quelqu'un, on commence à examiner à quelle date il est né, quelles sont les planètes qui influencent. Est-ce que ça va être un leader ou quelqu'un qui subit? Parfois, on peut encore rajouter un autre élément qu'on appelle la graphologie. On peut déterminer la personnalité d'un individu selon le caractère de son écriture. Si c'est une personne instable, là, il ne peut pas être un directeur ni un leader. Est-ce que c'est quelqu'un qui est fort? Oui ou pas? Tout ça, c'est lié. Quelles sont les influences des astres dans notre vie? Néant. Nous avons un astre plus puissant que les autres astres. Il n'est pas dit que la Bible ne parle pas. J'aurais pu vous faire des études sur les astres, l'astronomie dans la parole de Dieu. Quand on lit les livres de Job, on parle des grands ours. Les grands ours, ce sont l'ensemble des constellations qu'on voit. La Bible parle des étoiles. Et cette pratique des étoiles dévoyées, ça a commencé en Babylonie. Et dans lequel même des prêtres de l'époque tombaient dedans. Dieu a dit à Ézéchiel, viens, je vais te montrer ce que mes prêtres, mes pasteurs font devant vous. Ils annoncent la parole de Dieu, ils font des trucs, et regarde ce qu'ils font la nuit. Dieu l'a pris en esprit, ils sont en train de voir les prêtres se mettre à genoux, en train d'adorer Tammuz. Tammuz, c'est le dieu des astres. Et ça, c'est en Babylonie. C'est les Babyloniens qui ont la science des astres. Au point qu'à l'époque, Jésus, quand il était né, parce qu'il y avait une étoile particulière qui était sortie dans le ciel, ils ont remarqué que cette étoile n'est pas comme les autres. C'est parce qu'ils avaient la connaissance. D'autres s'en servent pour développer une sorte de sagesse humaine, mais d'autres ont fait un usage complètement perverti. D'où les signes de Zodiac en 12 branches, où il y a des noms, dans quel secteur tu es né, quel est ton signe astrologique ou voilà. Et quand on sort des journaux, les quotidiens, il faut bien que cette page-là soit spécifique. Radio RTL, RMC, à partir de 6h et 8h, allez, tiens, horoscope, on donne, voilà. C'est comme si tout le monde est cloné. Mais je veux évacuer cette pensée de votre idée. Nous ne sommes jamais identiques. Je ne peux jamais être identique à mon frère Jacques, je ne peux jamais être identique à Francette. Nous sommes spécifiques. Depuis la création du monde jusqu'à ce jour-là, il n'y aura personne qui a été comme vous, même si c'est votre jumelle ou votre jumeau, et il n'y en aura jamais personne qui sera comme vous. Pourquoi vouloir définir ma vie au même titre qu'un autre qui est né dans le même âge que moi? C'est de la folie pure et simple. D'abord, le but, c'est d'attaquer Dieu dans toute sa grandeur. C'est pour dire que Dieu n'est pas capable d'être, et de le ramener dans un contexte bien, bien rétréci. Nous étudions Abraham. Abraham, quand Dieu lui a dit « quitte le pays de Chaldée pour aller vers la terre que je te promenais », c'était le retour au paradis perdu. Cette ville qui était devenu Babel par la suite, ça a été construit sur le roi Nimrod. Et Nimrod, c'est un ennemi de Dieu. C'est un rebelle. C'est lui qui a inspiré tout ce qui est rébellion, même dans la musique de l'art. Regardez les rockers. Vous avez déjà vu les rockers, là? Ceux qui font le rock. Je sais que ce n'est pas peut-être pour vous, mais en tout cas, moi, j'ai regardé de très près la mentalité de ces gens-là, mais il n'y a pas une mentalité plus rebelle que les rockers. Ils veulent tout inverser. On vit une autre vie de liberté. Mais ça, c'est l'esprit de Nimrod qui pousse les gens contre Dieu. On s'unit contre Dieu. Et pourtant, c'était une ville prospère. Ils avaient les canalisations, ils avaient les toilettes, ils avaient de grands boulevards. Et les études scientifiques en cette période montraient qu'ils étaient en mathématiques très évolués. Ils commençaient à étudier les racines cubiques à l'époque. Dieu va dire à Abraham, quitte ce pays. Ce n'est pas ce paradis que je te demande, mais quitte. Vous voyez, c'est dans ces milieux que ces forces-là agissent. Et notre monde actuel n'est pas loin. Sinon, encore pire. Si les étoiles contrôlent nos vies, alors elles ont un pouvoir divin. Dans ce cas, nous les consulterions pour nous guider et nous aider. L'astrologie tourne donc notre foi et notre louange vers des choses créées, ce qui est une idolâtrie. J'en arrive. Le médium et les guérisseurs, qui nous concernent tous. Ah oui, dans les campagnes profondes, on leur donne beaucoup d'honneur. On les appelle parfois des rebouteux, chez nous des marabouts ou des sorciers qui vous promettent moins et merveilles, alors que quand vous voyez leur vie, vous dites, mais le pouvoir dont ils disposent là, il ne peut pas s'utiliser pour eux-mêmes. Le monde des sciences préfère les nommer médiums ou guérisseurs. Peu importe leur dénomination, ils ont le pouvoir de guérir les maux de chacun d'entre nous. La plupart possèdent ce don sans pouvoir en expliquer ni les origines, ni les mécanismes. Comment opèrent-ils? Je crois que notre corps dans lequel nous vivons peut à la fois être un partenaire comme un ennemi. Et il est soumis à la souffrance. Et c'est là où on voit deux types de chrétiens avec des attitudes différentes face à la souffrance. Les souffrances que nous subissons peuvent être soit de notre faute, pour la plupart, mais pour certains, la souffrance n'est pas liée à leur faute. Simplement, c'est parce qu'ils appartiennent au Seigneur. Je fais court là. Hein. On souffre parce qu'on appartient au Seigneur. Nous sommes comme des poissons qui évoluent à contre-courant. Et ça, ce n'est pas chose facile. Tu vas te rendre compte que même la machine de l'administration peut se révéler comme une machine de guerre contre nous. Le système judiciaire, dans son fonctionnement, peut se révéler comme une machine de guerre contre nous. Les lois publiques, l'esprit de masse, voilà, parce que tout le monde pense comme ça, je dois penser comme ça, peut se révéler d'une hostilité contre nous. Mais maintenant, si je souffre dans mon corps en tant que chrétien, qui dois-je aller consulter? C'est là où le problème est. Moi, je vois quelques-uns, hein. J'ai été dans votre région, même à Paris, je vois même des chrétiens qui se disent des chrétiens ayant beaucoup d'années dans la foi et qui, dans les grandes difficultés, au lieu de se soumettre à la promesse ou à la parole de Dieu, et qui vont aller ailleurs. pas plus tard ici. J'étais dans le coin. Et même dans cette église. Il y en a d'autres qui vont aller voir des guérisseurs. Pourtant, je leur ai dit que ce message était pour eux. Et ils sont pas là. Voilà comment le diable fait les choses. Il ne veut pas t'exposer à la parole de Dieu pour que tu l'écoutes et tu guérisses. Jésus a dit, vous ne voulez pas venir à moi pour écouter la parole de Dieu et que vous soyez guéris. Vous voyez ? Ce message leur permet de se remettre en question, donner à Dieu et d'être délivré et de vivre normalement. Nous avons tout pleinement en Jésus pour qu'aller chercher ailleurs ce que nous pouvons trouver dans le Seigneur. Alors, ces guérisseurs, ils peuvent se dire être dotés d'une mission spirituelle, parce que c'est comme ça qu'ils attrapent leurs victimes. Il y en a d'autres qui peuvent sortir des Bibles, ils peuvent lire des passages bibliques. Mais vous savez que la Bible, il y a une secte en Israël qui s'appelle la secte de Kabbal. Ils se servent même de la Bible pour faire de la magie. Donc ce n'est pas le fait que la personne prenne la Bible en disant que ce que j'ai vient de la part de Dieu, que vous allez vous y soumettre. Tout ça aussi, c'est lié au fait que nous sommes un peu, excusez-moi le terme, mais je vais le dire, un peu paresseux spirituellement. On ne s'équipe pas de la parole du Seigneur et on aime que les choses aillent vite dans notre vie, aussi facile que ça. Mais quand on n'est pas équipé, on est exposé. Et le diable s'en sert. Voilà. Ah, mais puisque c'est fait pour soigner, c'est fait pour, c'est humain, c'est parce qu'il aime. Vous avez vu le diable aimer quelqu'un ? Est-ce que le diable aime quelqu'un ? Même s'il te donne un breuvage dans une coupe d'or, je peux t'affirmer qu'au fond, il y a du fiel, il y a du poison. Le diable n'aime jamais personne. Et de lui ne vient jamais la vérité. Même son bonjour est un mensonge. Même si le soleil se lève et tu dis qu'aujourd'hui il fait beau temps, mais parce que ça sort de la bouche du diable, c'est du mensonge. Le mensonge n'est pas le fait de dire une chose qui est exacte ou contraire à la réalité. Le mensonge vient de celui qui dit la parole. Comme le diable, il est père du mensonge, même s'il te dit des choses qui sont exactes, de sa bouche, c'est du mensonge. Et comme Dieu te dit qu'aujourd'hui, il fait nuit, et même s'il fait jour, comme ça sort de la bouche de Dieu, c'est une vérité, il faut y croire. C'est tout. Alors, ces personnages ont les dons de guérir l'eczéma, des brûlures, des verrues, des entorses, des problèmes de peau qu'on appelle zona, parfois de lumbago, font des signes, problèmes de dos. Il y en a qui ont le don d'estomper les hémorragies, etc., etc. Ils peuvent le faire. Mais le problème, de qui tiennent-ils ce pouvoir ? Voilà la question. On parle de cela des dons paranormaux. Surtout en matière de la guérison, et quand on parle parfois des dons, l'année dernière, nous en avions parlé des dons et des talents. On avait vu que même dans notre groupe, on n'est pas au point sur le système des dons et des talents. Les talents, ce sont des dons que nous recevons, soit travailler, une langue que j'apprends, une compétence que j'ai acquise par le savoir-faire. Mais parfois, les dons, on le confond par rapport aux dons spirituels. L'Église, elle est surnaturelle. La force avec laquelle l'Église de Christ est appelée à marcher, c'est une force surnaturelle qu'on appelle les dons, et ce qu'on appelle les dons spirituels, qui se subdivise en groupes de trois. Mais en réalité, qui n'étaient pas trois, il faut aller beaucoup plus loin. Je ne fais pas un exposé là-dessus sur les dons. Mais les dons qui viennent de la part de l'Esprit, ce ne sont pas des dons que nous avons appris. Ce sont les dons qui viennent de la part de Dieu. Donc, pour n'avoir pas bien compris le sens sémantique de ce mot, quand les gens développent le don paranormaux et qu'ils viennent dire qu'ils ont reçu ça de manière surnaturelle, on lui fait confiance. Et c'est justement cet argument que utilisent beaucoup les guérisseurs. Mon don vient de la part de Dieu. C'est pour faire du bien aux hommes. Oui, quand le corps est souffrant, tu as besoin qu'on puisse te soulager. Mais quand quelqu'un te soulage, tu y crois. Mais est-ce que c'est parce qu'il t'a soulagé que ce qui vient de lui est de Dieu? Qu'est-ce qu'il te demande en échange sans le savoir? Parce que le diable ne donne rien sans rien. Certains découvrent leur don par hasard en voulant aider, soulager un proche. Mais le moyen de transmission le plus fréquent est l'héritage familial. Voilà. Ah tiens, je tiens ça de ma grand-mère. Ah ça, je tiens ça de mon grand-père ou de mon oncle. Mais est-ce que le don spirituel est transmissible générationnellement? Le don de Dieu ne se transmet pas de père en fils. Le don de Dieu vient de Dieu. La Bible a dit que le Saint-Esprit donne son don à qui il veut. Donc si ça vient par héritage familial, il y a un maître qui organise de manière à ce que ce don ne disparaisse pas dans l'ordre de l'humanité, de manière à ce que ce don paranormal continue à exercer ce pourquoi il a donné, c'est-à-dire le diable. Donc du père en fils, petit-fils. Et quand ces dons existent, il y a une malédiction qui est derrière. La question de leur don et de leur puissance intrigue. De qui tiennent-ils le pouvoir de guérir? C'est ça la question. La plupart tiennent le même discours. Je fais du bien. J'aide mon prochain. Je ne fais pas cela pour de l'argent. Par conséquent, ça ne peut pas venir que d'en haut, c'est-à-dire de Dieu. Alors, c'est là où le mot Dieu devient un mot assez compliqué. Dans notre siècle, mot Dieu. Qu'est-ce qu'on met dans le mot Dieu? Je crois qu'à plusieurs occasions, j'en ai parlé. Au point que lors d'une prédication au temple, retransmise sur Radio Grille Ouverte, les musulmans ont attaqué une petite paraphrase que j'ai faite et ils me sont rentrés dedans. Ah ouais, ouais. J'ai dit que le Dieu des chrétiens, c'est pas le même que celui des amis musulmans. Oh là là, ça y est. De Alès jusqu'à la Grande Combe, ils sont vent debout. On vit les choses à vos côtés, vous ne savez pas là, hein, c'est dur. Hein. J'étais allé voir Sanoun, nous en avions parlé, il m'a dit, Sanoun nous dit que je comprends. Je comprends. Voilà. On s'interroge également sur l'origine de leur puissance. Si leur pouvoir vient de Dieu, il faut que leur croyance, leur pratique, leur formule correspondent à celle de Dieu. Est-ce que les formules et pratiques de ces guérisseurs correspondent aux formules et pratiques de Jésus-Christ? Parce que Jésus est notre guérisseur, celui qui nous guérit. Voilà. Jésus dit à ses disciples, allez, guérissez les malades, chassez les démons. Il leur donne le pouvoir. Et ils font exactement comme Jésus. Le vrai don divin vient directement de Dieu. Et selon la Bible. Et non pas par un héritage familial ou une initiation secrète. Hein? Ou une transmission à une date précise, à un endroit précis, et souvent c'est le cimetière. Ah oui, oui, oui. Souvent c'est le cimetière. Dans des endroits bizarres. Si leur don vient de Dieu, ils devraient connaître ce vrai Dieu-là, personnellement, ainsi que son message. Mais lorsque vous posez la question au médium ou au guérisseur, si vous connaissez Jésus, d'abord, ils ne vont pas prononcer le nom. Ils ont des reliques, des objets religieux, des machins comme ça. Là. Non, faire attention. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il peut arriver au courant de notre vie, sans peut-être le savoir, être embarqué dans une situation de ce genre-là, des contacts, même occasionnels, avec des guérisseurs. Voyants ou médiums, peuvent avoir des répercussions, et parfois certaines dans certaines vies. Il y a des esprits qui possèdent votre vie. Ils vont faire le vide autour de vous pour vous isoler, pour vous maîtriser. Ne soyez pas étonnés que le début d'une relation avec quelqu'un est le commencement d'une crise. Vous ne poursuivez jamais longtemps une relation amicale, encore moins une relation amoureuse. Parce que ces esprits travaillent pour vous isoler, pour pouvoir mieux vous manipuler. Chez les filles, c'est pareil. Tu vas aimer un homme tout flamme, tout feu, au bout d'une semaine, ça y est, boum, ça devient autre chose. Et après, tu dis que tous les hommes sont des démons. les hommes pareils. Ce sont ces esprits qui vous empêchent de prospérer sur le plan affectif, émotionnel. Parce que la vie de l'esprit vient par la foi et par le cœur, par l'amour. La vie chrétienne, c'est la vie du cœur. Et c'est là où le diable cherche par tous les moyens à percer le cœur. Incapable d'aimer, incapable de donner l'amour, incapable même d'en recevoir. Et comme ils sont incapables d'en recevoir, ils disent que tout le monde n'aime pas, tout le monde n'a pas l'amour, et ça y est, ça commence, bronca commence. Ils développent une sorte d'amertume, et quand ils sont dans une communauté chrétienne, quand on n'en fait pas attention, ça infecte la communauté. À cause de ça. Certaines églises ne prospèrent pas à cause de ça. Même dans la vie chrétienne, même les chrétiens, ils sont spécialistes de faire le vide autour d'eux. Pas de nouvelles personnes. Restons entre nous, cercle fermé. Quand une nouvelle personne convertie vient au sein de l'église, il s'arrange à le brancarder et il fuit. Ça, c'est lié à ça. Moi, j'en ai vu plusieurs. Mais ils n'attendent pas une seule oreille que tu leur donnes des conseils à ce sujet. Ils ne veulent pas. L'ennemi ne veut pas être débusqué. Quand tu touches cet aspect, il te regarde comme des rafales de mitraillette. La question des conséquences de ces pratiques est rarement abordée avec clarté. Vous connaissez certaines difficultés, certains troubles, voilà. Il y en a d'autres, le sommeil devient difficile. Ouh, la nuit. Quand la nuit vient, ils ont peur. Au point que la superstition, ils vont prendre la Bible pour dormir dessus, en pensant qu'à dormir sur la Bible, ils vont avoir le sommeil. Mais non. Et des troubles, je peux vous en faire la liste, hein, mais bon, ce n'est pas ça le plus important. Attention. Le verbe « sauver » concerne l'homme dans sa globalité, pas que le corps, parce que l'homme n'est pas que le corps. Et nous, dans notre monde physique, nous nous laissons conditionner par notre corps. On écoute trop nos corps. Je crois, la Bible le dit, même l'apôtre David dit aussi, il y a des fois que son corps ne veut pas obéir, il est obligé de commander à son corps de se soumettre à la volonté de Dieu. Notre vraie nature, c'est la volonté que nous avons, associée à celle de Dieu. Et notre corps reste et demeure notre serviteur. Le corps n'est pas notre maître. Et l'apôtre Paul le dira, ne prenez pas soin de la chair, et dans le sens où les désirs charnels. Ah tiens, je vais faire une parenthèse. Nous devons prendre soin de notre corps, parce que c'est dans notre corps que nous servons le Seigneur. D'accord ? Je fais la différence entre ce qui exige le corps comme une tyrannie, auquel on ne doit pas se soumettre, parce qu'en nous soumettant, notre volonté est annihilée et notre corps nous dicte des choses à faire. S'il a dit, ah, va boire, tu vas boire, va te faire ceci, tu vas faire cela. Non, 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 on ne doit pas écouter notre corps. Notre corps reste notre esclave. Nous en sommes notre volonté, notre maître. Voilà. Et c'est là que le combat commence. Voilà. Donc, je me fais bien comprendre là. Dieu s'intéresse à notre santé physique. C'est pourquoi il nous guérit. Il s'intéresse à notre santé émotionnelle. Ce qu'on appelle le développement intégré. C'est-à-dire corps, âme et esprit. Il y a des gens qui sont mûrs physiquement, mais spirituellement, nains. Moralement, alors là, il n'y a rien du tout. Donc, notre croissance doit être une croissance équilibrée comme celle de Christ. Il croit en stature, en sagesse, en grâce, devant les hommes et devant Dieu. Donc, nous, notre corps doit grandir, mais quand il grandit de manière équilibrée avec la connaissance de Dieu et sur le plan moral. Parce que la connaissance de Dieu a des implications sur le plan moral. S'il ne guérit pas que physiquement tout le monde, il offre en revanche la guérison définitive qui est la vie éternelle. L'objectif premier de Jésus pour nous, c'est notre vie, c'est de nous sauver, le salut, c'est-à-dire pardonner nos péchés, nos fautes, changer notre vie, nous communiquer sa vie, une vie éternelle. Et c'est pour cela que Jésus est venu, par sa mort sur la croix. Il a pris sur lui nos péchés, puis il est revenu à la vie parce qu'il a vaincu le mal. Ne passez pas à côté de la guérison spirituelle. Beaucoup ont reçu la guérison physique, mais ils n'ont pas reçu la guérison spirituelle, comme les 10 lépreux de l'évangile de Luc. Il y avait 10 lépreux qui étaient touchés par la lèpre. Et vous savez qu'en Israël, quand on est lépreux, on est mis au banc de la société. Et quand on marche sur la route, on a une sorte de clochette où on prévient celui qui vient en face que je suis impur et impur. Il y avait 10 lépreux qui étaient venus voir Jésus et Jésus les a purifiés. Et il y a un qui est revenu. Les autres, ils ont reçu une guérison physique, mais ils n'ont pas reçu le salut. Par contre, l'unique, il a reçu la guérison physique et il est revenu recevoir le salut. Et c'est ce que Jésus cherche. Et Jésus ne guérit pas à la manière des médecins. Les médecins, quand tu te guéris, allez, tu repars encore à nouveau. Tu te casses les dents à nouveau, tu reviens, il encaisse des sous, il te donne des médicaments, voilà. Le monde, il te met dans une sorte de cercle. Tu travailles, tu te casses le dos, tu abîmes la santé, tu prends l'argent qu'on te donne comme salaire, tu vas encore acheter la santé. Et le cercle est là, on ne s'en sort pas. Mais Jésus, quand il nous guérit, pour que nous puissions obtenir le salut et le servir. Maintenant, on en revient à la parole de Dieu. Je vais le mettre tout comme ça, je le lis. Que dit Lévitique, chapitre 20, verset 27 ? Lévitique. Si un homme ou une femme ont l'habitude d'interroger les esprits des morts, il faut les faire mourir. On les tuera en leur jetant des pierres, ils seront seuls responsables de leur mort. Non, on ne va pas le faire maintenant, ça c'est dans la loi. Voilà. Jésus est venu pour sauver. C'est pour montrer combien Dieu est en horreur. Deutéronome 18. Quand le peuple de Dieu était délivré de l'esclavage, ils sont allés être conduits vers la terre de la promesse et Dieu leur donne des instructions. Vous n'apprendrez pas à imiter la conduite horrible de ce peuple-là. On ne devrait trouver parmi vous aucune des personnes suivantes. Quelqu'un qui brûle son fils ou sa fille en sacrifice. Il y en a ? Il n'y en a pas. On ne le brûle pas en ce moment. Mais cependant, on fait une chose. Attention, mes sœurs. L'IVG. Si vous l'avez pratiqué, demandez pardon au Seigneur. L'IVG. C'est toute une industrie du fœtus des femmes qu'on récupère. Et je vais encore vous choquer davantage. On utilise parfois à cause de la particularité. Je parle sur le regard de Gabriel. Je pars sous ton regard, sous ton contrôle. Si ce que je dis est faux, tu me le dis parce qu'elle est dans le milieu scientifique. On utilise parfois ces genres de choses pour faire des cosmétiques à cause de la propriété de tous ces différents éléments. Voilà. Ceux qui pratiquent la magie, qui interrogent les charlatans ou les morts, qui lient dans le ciel, qui devinent l'avenir, qui pratiquent la sorcellerie, il y a une sorcellerie chrétienne, je vais aborder un jour, qui envoûte les gens, qui jette les sorts ou qui d'une manière ou d'une autre consulte les morts. Ceux qui font cela, le Seigneur votre Dieu les a en horreur. C'est pourquoi à votre arrivée, il chassera les habitants de ce pays. Mais vous, attachez-vous de tout votre cœur au Seigneur votre Dieu. Le peuple que vous allez chasser écoute les charlatans et ceux qui lisent dans le ciel. Le Seigneur votre Dieu ne veut pas de cela pour vous. C'est dire que Dieu est tout pour nous. Un autre verset. Lorsqu'on viendra vous dire, allez donc consulter ceux qui évoquent les esprits, ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui chuchotent ou marmottent. Le peuple ne doit-il pas consulter leur Dieu? Peut-on s'adresser en faveur des vivants en interrogeant les morts? Dans ma version. On ne peut pas interroger les morts en faveur des vivants. Si quelqu'un vient vous dire, allez consulter les morts en faveur des vivants, il vous trompe. C'est un texte que j'aime bien et que je l'ai découvert cette année, que je partage, dans Michée chapitre 4, verset 5. Les gens marchent au nom de leur divinité sur la terre. Mais nous, nous invoquons l'Éternel, notre Dieu, et c'est pour lui que nous devons marcher. Et c'est par lui que nous devons marcher. Marcher signifie faire des choix. Marcher signifie faire des décisions. Marcher signifie que dois-je faire devant une telle situation. Si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Voilà ce que c'est que marcher selon l'Esprit. Galates. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme qui est livré à lui-même. L'homme qui est livré à lui-même, il vit quoi? Il vit l'immoralité. Nous en sommes pleins dans notre monde. Les pratiques dégradantes, ça je n'en dis pas un mot, vous le savez déjà. La débauche, mot dans lequel on peut tout mettre dedans. L'adoration des idoles, la magie, les haines. Ah, les haines, ce n'est pas rien. Souvent, ceux qui pratiquent l'occultisme, ils sont dotés d'une qualité, capacité de haïr. Et quand ils haïssent, il y a une personne au milieu de nous qui dit qu'à l'époque, quand ils faisaient la magie, rien que quand ils pensent mal contre quelqu'un, la personne subit un choc. Il a pensé mal contre quelqu'un qui devait lui libérer la route, la personne lui appelle libérer la route, et le lendemain, de haut de son étage, il voit les Samus à tour de le prendre dans les civières. Et ça ne s'est pas arrivé une fois, ni deux fois, ni trois fois. Il était au sein de notre communauté. Et c'est les exemples qu'il a vécu. J'étais allé faire un tour chez ma fille à Nice. On est allé se promener avec eux. Je suis retourné à la maison tranquille. Et voilà, j'entends un coup de fil sur mon téléphone. Et dès que c'est pasteur Cabot, je dis oui, c'est bien moi. Il m'a dit, pasteur, je me retrouve avec un cas bizarre depuis pas mal de temps et que je n'arrive pas à me retrouver, mais je me dis c'est quoi? Il me dit que c'est une fille qui passe tout son temps à hurler, dit qu'on l'a ensorcelée, là on sorcelait, et elle commence à dire des choses innommables. Mais j'ai prié pour lui, mais ça ne guérit pas. J'ai dit, ah bon? Ben, il faut que je le voie. Il m'a dit, vous ne pouvez pas le voir. Bon, j'ai dit, si je ne peux pas le voir, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et une heure plus tard, le téléphone sonne à nouveau. Et j'attends un bruit là-bas. Je lui dis que, est-ce qu'elle est là? Il me dit, oui, elle est là. Comment elle s'appelle déjà? Son nom ici. Najat. Je lui dis, passe-la moi. Elle me l'a passé. Je lui dis, comment vous appelez-vous? Il me dit, Najat. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il me dit que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Bon, je lui dis que je suis loin. Je ne peux pas te faire un accompagnement approfondi de l'âme, mais je voudrais savoir qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. Elle me dit qu'elle est psychologue. Et avant, il avait eu un tuteur qui l'orientait dans le travail. Et le tuteur lui avait fait une séance un jour de laquelle elle est sortie, mais elle sentait qu'elle n'était plus elle-même. Et depuis lors, elle a perdu l'équilibre. Bon, je l'ai pris, je lui ai dit qu'on va amener dans ce livre-là, Deutéronome chapitre 18. Il m'a dit, mais j'ai toujours lu. Je lui ai dit, oui, mais tu l'as toujours lu. Mais cette fois-ci, tu vas le lire avec moi. Elle est allée chercher sa Bible, je suis de l'autre côté. Je lui ai dit, lis-le. Elle commence à le lire, elle commence à le lire. Rien qu'à moitié de la phrase, elle n'a pas déjà entendu. Ah ! Boum ! Elle est tombée. Bon, je dis, Seigneur, tu la touches, je ne suis pas là, mais que ta grâce repose sur elle. Esther vient d'arriver là, elle vient de repartir de ma fille. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment est allée la jeune fille ? Elle me dit, ah, parfait. Parfait. Elle va très très bien. Depuis la prière, elle est complètement délivrée. Parce que ce que je ne sais pas, c'est qu'elle fait des pratiques divinatoires. Elle fait des lévitations. Elle est capable de prendre une chaise comme ça, la tournoyer. Vous savez, d'où vient ce genre de pouvoir de prendre des lévitations là? Il y en a plein. Et beaucoup de chrétiens, après avoir pratiqué ces choses, ils rentrent dans l'église du Seigneur sans pour autant que les liens soient totalement coupés. Du coup, Jésus tire pour avancer et le diable tire pour reculer. On va aller plus loin, les conséquences. Les accès de colère, les rivalités. Ah, parfois on le retrouve dans l'église du Seigneur, je me dis, mais vraiment, est-ce que c'est le lieu pour qu'il y ait des rivalités parmi les enfants de Dieu? Parmi les pasteurs, hein, il y en a, hein, ça je vous le dis, hein, ne vous inquiétez pas. Les dissensions, les divisions. Notre avion, au niveau de Usès, est en train d'être secoué par une zone de turbulence. L'envie, et parfois l'ivrognerie. Les gens qui soulèvent toujours les coudes au-delà de la normale. Les orgies et autres choses. Ah, je ne puis le répéter. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage de... C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est pas moi qui le dis. Parfois, on est d'un angélisme plus que Jésus, qu'on dit que tu exagères. Tu es intégriste. Et c'est parfois, c'est le sobriquet qu'on me donne. Hein. Intégriste. Non, ça c'est la parole de Dieu. Vous croyez qu'il y a plus d'intégristes que Jésus? Soyons clairs. Si Jésus arrivait aujourd'hui, vous le traiterez de quoi? Notre fille nous en avait entretenu ce matin. Même les siens. Quand ils commencent à leur dire la vérité, alors là, il faut lui couper la tête. Mais la vérité, ce n'est pas pour nous, la vérité pour celui qui le reçoit. Voilà. Au verset 11, verset 14 de Corinthiens, chapitre 11, verset 2e épître de Corinthiens. Ces hommes-là sont des faux apôtres, il y en a, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres de Christ. Cela n'a rien d'étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous qui aimez les miracles derrière les serviteurs de Dieu, nous en avons parlé. Quand Moïse a envoyé, Dieu a envoyé Moïse en Égypte, il a jeté son bâton qui est devenu du serpent. Vous croyez que les Égyptiens n'en ont pas fait autant? Voilà. Les magiciens de l'Égypte ont fait également, ils ont jeté leur bâton, c'est devenu des serpents. Et lorsqu'on regarde le phénomène, manifestation naturelle, il risque de se tromper. Mais c'est quand on remonte sur l'origine de la force que la différence se fait. L'autre vient de Dieu, l'autre vient du diable. Heureusement d'ailleurs, Dieu triomphe toujours. Le serpent de Moïse a avalé le serpent de Jeannès et Jambrès. Donc voilà là. Alors je reviens au texte que j'ai lu, j'en ai terminé. Que j'ai lu tout à l'heure en introduction. Et je me soumets à vos questions. Si je peux répondre, sinon, on prie. Oui, ça y est, c'est bon là. Ça, c'est... c'est bon. Parmi ceux qui pratiquaient la magie, beaucoup apportent leurs livres et les brûlent devant tout le monde. On calcule le prix de ces livres et on trouve que cela faisait 50 000 pièces d'argent. Ainsi, par la puissance du Seigneur, la parole de Dieu est de plus en plus connue et de plus en plus solide. Alors, l'autodafé, le fait de brûler des livres de magie en public, montre qu'on avait immédiatement enseigné aux nouveaux croyants à se détourner des pratiques occultes au rang desquelles on note la sorcellerie, la magie noire, le spiritisme, et les autres pratiques occultes dont on a évoqué le nom tout à l'heure. Ce sont des activités sataniques, démoniaques, voulues ou inconscientes, parce qu'il y en a d'autres que le diable utilise à leur inconscience. Toutes ces pratiques sont incompatibles avec la foi chrétienne. On ne peut être un croyant en Christ et avoir en même temps des rapports avec les mauvais esprits ou essayer d'entrer en contact avec les morts. Dieu déteste et condamne toutes ces pratiques. Se donner dans l'occultisme ou dans l'espiritisme ouvre la porte de notre vie à une influence des puissances qui vont faire en sorte que notre vie ne progresse pas et que nous pouvons soit être victimes de certaines maladies inexpliquées, parce que s'il y a des médecins au milieu de nous, ils vous le diront, il y a des gens qui souffrent et qu'on amène à l'hôpital, on fait des examens médicaux, mais rien. Mais pourtant, ils sont souffrants. Et comme je suis en contact avec des médecins chrétiens, certains médecins disent que quand ils ne parviennent pas à trouver le diagnostic par des moyens conventionnels, alors là, ils ont l'ultime artillerie, c'est la prière. Et ils obtiennent toujours des résultats intéressants. C'est pour dire que nous avons tout dans le Seigneur. Si ces choses-là, de loin ou de près, touchent votre vie, c'est à vous devant le Seigneur, de dire, « Ah, Seigneur, je veux faire un point d'arrêt, je veux réclamer. » Parce que cette délivrance n'est pas une promesse, c'est déjà un fait divin. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, la Bible a dit que Jésus a dépouillé les autorités terrestres et les a paralysées en triomphant d'elles par la croix. Et c'est par son nom que nous sommes délivrés. Il nous a arrachés de ce présent siècle pour nous transporter dans le royaume de Dieu. Il faut en être déraciné. Les pratiques, ceux qui ont exercé une activité religieuse dans le milieu catholique, je ne vais pas parler de Marie aujourd'hui, mais j'en parlerai le moment indiqué. Il y a un grand danger derrière cette pratique. Parfois, au début, on ne vous le dit pas. Mais je vais vous faire l'historique. Vous allez comprendre qu'il y a un danger qui est derrière. Et ça, nous avons besoin d'en être délivrés. On ne veut pas d'un autre intermédiaire que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. C'est tout. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Et c'est à partir de là que nous pouvons rentrer pleinement dans le bénéfice de ce que Dieu a fait. J'ai été imparfait ou peut-être assez rapide sur certains points. Mais j'aurais aimé que la question soit évoquée globalement au sein de l'Église pour que nous puissions orienter notre prière et progresser avec le Seigneur. Ne pas être il y a 10 ans comme aujourd'hui. Hein? Notre progression spirituelle est tasse, là, marque le pas. Et ça, il y a problème. Il faut qu'on lâche les amarres. Et ça, il faut les couper. Et que Dieu nous guérisse de certaines choses dont on a besoin d'être guéri. Et que si jamais souffrance vient de sa part, qu'il nous donne la force d'affronter la souffrance sans rechigner. Amen. Voilà, c'est cette pensée que j'aimerais partager avec vous. Je me livrerai de jeux de questions ou de témoignages pour enrichir. Sinon, je prendrai le temps de prier et de faire une prière d'autorité pour que votre vie soit totalement libérée. Voilà, on verra ce que je vous donne. Que le Seigneur vous bénisse.